Voilà, bienvenue à ce premier volet de nos conférences de carême à Notre-Dame du Travail, une conférence que nous donnons à deux voix, le père de Mello et moi, avec comme thème cette année « Qu'est-ce que tu fais pour la vie éternelle ?» Voilà, « Qu'est-ce que tu fais pour l'éternité ?» Ça fait partie justement de notre espérance, c'est un enjeu de notre espérance. Jésus vient parler du royaume des cieux. Eh bien, essayons de comprendre avec ces conférences, de rentrer un peu plus profondément dans des notions qu'on a pu entendre, dont on a pu entendre parler, de jugement particulier, de jugement dernier, d'état de purgatoire, de paradis ou d'enfer. Qu'est-ce que cela signifie? Où est-ce qu'on peut retrouver cela dans l'Écriture? Quel enjeu pour notre réflexion, pour notre vie personnelle? Alors ce soir, nous vous proposons de réfléchir plus particulièrement sur le jugement particulier et sur l'état de purgatoire. Je commencerai dans un premier temps, un premier volet de ce soir, pour présenter un certain nombre d'éléments scripturaires sur ces deux notions, donc notion de jugement particulier et d'état de purgatoire. Et ensuite, je laisserai la parole au Père de Mello, qui nous donnera une perspective plus théologique et spirituelle. Donc voilà pour le programme de ce soir. Que l'Esprit Saint nous assiste, qu'il me donne de vous dire ce que le Seigneur veut vous dire et qu'il vous donne d'entendre ce que le Seigneur veut que vous entendiez. Amen. Alors pour parler du jugement particulier et de l'état de purgatoire, on se rend compte que l'un comme l'autre vont se situer par rapport à la mort de l'être humain. Et je voudrais commencer par faire un petit préambule sur ce qu'on entend par la mort. Je voudrais rappeler quelques éléments. L'être humain est créé, donc on se dit, parce qu'il est créé, il n'est pas toujours à toujours, il a un commencement, et donc il doit aussi être mortel. Et c'est dans sa nature, et sa nature n'est pas éternelle. Et du coup, nous comprenons que, associé à la nature de l'homme, il y a une fin de l'existence terrestre. Mais lorsque on va parler de mort dans l'Écriture, on va se rendre compte que la mort est liée avec une autre notion, elle est liée à la notion du péché. Et donc on va devoir distinguer fin de l'existence terrestre de cette notion de mort fruit du péché. Alors, où est-ce qu'on trouve ça dans l'Écriture? Quand vous allez au chapitre 2 de la Genèse, au verset 9, vous savez, on nous dit « Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. » Vous voyez, le fait qu'on ait mentionné l'arbre de vie dans le jardin qui va être donné à l'homme est le signe que justement la nature de l'homme ne possède pas cette vie éternelle puisqu'il a besoin d'un arbre de vie. Il ne la possède pas en lui-même. En revanche, on manifestera aussi la nature mortelle de l'homme, avec un peu plus loin, toujours au chapitre 2, au verset 17, « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort, ou littéralement, de mort, tu mourras. » Donc l'homme était mortel, mais aurait pu ne pas mourir, c'est-à-dire aurait pu connaître une fin de vie terrestre qui le fasse passer de cette vie naturelle à la vie surnaturelle en communion avec Dieu. C'est l'image que donne la dormition de la Vierge Marie, une fin paisible de l'existence terrestre. L'homme aurait pu connaître une fin d'existence terrestre qui ne fut pas la mort telle que nous la connaissons désormais. Voilà, c'est le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, tu mourras de mort. Ou, si vous voulez aller regarder dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu avait créé l'homme pour la vie. » Il y a un livre assez tardif dans l'Ancien Testament, le livre de la Sagesse, qui va nous dire ces deux choses. Dans le livre de la Sagesse, chapitre 1, le verset 13, « car Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. » Oui, un peu plus loin, au chapitre 2 de ce même livre, « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Voilà. » La mort, du coup, apparaît comme une impasse. Le fruit du péché est une impasse dans laquelle l'homme se retrouve. Et l'Ancien Testament, pour parler de l'état de l'homme après cette mort impasse, cette mort fruit du péché, va d'abord développer une notion qu'on appelle le shéol. Le shéol, en hébreu, ça signifie un peu la question. Dans les traductions grecques, c'est désigné par l'Hadès. On mènerait une existence diminuée un peu à la manière des ombres. Pour citer quelque chose, si vous allez regarder en Isaïe, au chapitre 14, à partir du verset 9, on va nous dire ceci. En bas, le Shéol, c'est un roi qui descend au Shéol. En bas, le Shéol a tressailli à ton sujet. Pour venir à ta rencontre, il a réveillé pour toi les ombres, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous, c'est-à-dire une ombre. Ton faste a été précipité au Shéol avec la musique de tes cithares. Sous toi s'est formé un matelas de vermine, les larves te recouvrent. Donc, on a cette notion de la mort comme une violence qui est faite à notre nature humaine. Corps et âme se trouvent séparés. Le corps tombe en poussière, l'âme se retrouve orpheline de son corps, alors qu'une âme humaine est dans sa nature l'âme d'un corps particulier. Un être humain, c'est un corps animé, c'est une âme incarnée. On pourrait d'ailleurs s'appuyer sur l'image de l'amputation pour comprendre ce qui arrive à l'âme humaine séparée de son corps. Vous savez que on se rend compte que le cerveau des personnes amputées garde la mémoire du membre qu'ils ont perdu. Et on peut avoir mal à un bras qui n'existe plus, qui a été coupé. Notre cerveau en garde la trace. Et on pourrait dire, analogiquement, notre âme garde la trace de notre corps. Donc, vous voyez, notre âme, elle est attachée à un corps particulier, à un corps et à son histoire particulière. Le corps n'est pas interchangeable comme le serait une chemise. Et dernière remarque que l'on peut faire au sujet de la mort, ce qu'on va appeler la mort, donc c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi insister là-dessus? Parce que cette séparation du corps et de l'âme peut être un processus. La mort est accomplie lorsque l'âme est séparée du corps, mais cette séparation peut être un processus. Pour prendre une image un peu à la manière dont une mèche fume encore lorsqu'on l'a soufflée. Vous savez, il y a ce moment où il y a un peu de fumée qui passe, et puis, à un moment, il n'y a plus de fumée du tout. La mèche est vraiment éteinte. En médecine, on sait que le signe que quelqu'un est vraiment mort, au sens où il n'y aura plus de réanimation possible, ce n'est pas simplement l'arrêt du cœur, ou bien l'arrêt de la respiration, ou bien l'encéphalogramme plat. On est sûr qu'il n'y a pas de réanimation possible lorsque la décomposition du corps commence. Pourquoi noter cela? C'est parce qu'on distinguera du coup le processus de la mort où elle n'est pas encore achevée, et où il peut y avoir encore, il peut se passer quelque chose. Et ensuite, le moment où la mort est effective, la séparation du corps et de l'âme est effective, où là, il n'est plus temps. Vous savez, vous rappelez dans l'Évangile, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Cette parabole, elle nous dit à un moment, justement, les vierges folles qui n'avaient pas pris de réserve, elles arrivent et la porte est fermée. Et cette parabole nous manifeste, il y a un temps où il ne sera plus temps. Il n'est plus temps lorsque l'âme est séparée de la mort, lorsque la mèche, si on peut dire, a fini de fumer. Donc, je termine ce préambule pour dire, du coup, le jugement, on va en parler justement après la mort, lorsque cette séparation de l'âme et du corps est effective. L'idée d'un jugement dans l'Écriture, on va la trouver de façon très récurrente et très forte. Dieu se révèle comme un Dieu juste qui rend à chacun selon ses œuvres. Et puis, dans l'Écriture, il va y avoir un premier basculement, parce qu'au départ, on pensait qu'il y avait une rétribution immédiate. Voilà, c'est-à-dire que quand tout réussit pour toi, c'est que tu es béni par Dieu. Et si tu n'es pas fidèle, eh bien, il t'arrive plein de galères, plein de malheurs. Et puis, on se rend compte que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Crise de la sagesse, notamment, où on se rend compte qu'il existe une souffrance innocente, où il peut m'arriver des galères, c'est le cas de Job, par exemple, qui ne sont pas proportionnelles avec le mal dont je peux être responsable. Et du coup, et ça va se manifester surtout chronologiquement après le retour d'exil, vous savez que le peuple part en exil à Babylone, il revient vers 538, il a le moins 538, hein, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on comprend que cette rétribution, ce jugement, il aura effectivement lieu, Dieu rendra toute justice à la fin des temps. Donc il y a un premier développement qui va se faire après pour parler du Seigneur qui juge à la fin des temps. Et on aura notamment dans le livre de Joël, cette manifestation d'un jugement universel, que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. C'est une vallée, ce nom de Josaphat, ça signifie « Dieu a jugé » d'ailleurs. « Car là, dit le Seigneur, je siégerai pour juger toutes les nations en la ronde. » Ou bien dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, « Un fleuve de feu coulait issu de devant lui, mille milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui, le tribunal était assis. » Les livres étaient ouverts, donc le jugement va avoir lieu, et c'est un jugement qui a lieu avec la venue, dans le livre de Daniel, du Fils de l'homme à son avènement. Alors on peut dire, ok, on a une idée du jugement, mais là on a une idée d'un jugement, mais qui est tout à la fin. Et nous, ce soir, on veut parler du jugement particulier. Est-ce qu'on a des traces de cette possibilité, de cette idée d'un jugement particulier ? Alors dans l'Ancien Testament, c'est à une époque tardive qu'on va rencontrer, à l'époque de l'Ancien Testament, qu'on va rencontrer, et c'est d'ailleurs, on va le rencontrer dans la littérature non canonique du judaïsme, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas dans la Bible, une manifestation, une croyance, donc que les morts sont répartis dans le Shéol selon leurs mérites et en diverses catégories qui occupent des, entre guillemets, demeures différentes. Le livre d'Enoch, par exemple, donc c'est un livre de la tradition juive, mais qui ne fait pas partie de la Bible, va compter quatre demeures différentes où se trouvent les âmes des défunts dans l'attente du grand jugement. L'une, celle des justes, est lumineuse et contient une source d'eau vive, nous dit le livre d'Enoch au chapitre 22, tandis que les autres sont des cavités profondes et sombres. Pour qui est cette répartition ? Ça signifie qu'il y a un tri préalable entre juste et méchant, donc implicitement une sorte de jugement particulier qui anticipe le jugement final. Et vous savez, cette répartition, on en trouve une trace dans le Nouveau Testament. On en trouve une trace dans le Nouveau Testament lors de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Lorsque on nous dit justement que Lazare, à sa mort, est emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Ce sont justement des expressions qui désignent ces demeures du Sheol, tandis que le mauvais riche va dans l'Hadès. Le livre de la sagesse était lui aussi implicite. Il enseignait, en Sagesse 3, que les âmes des justes sorties de ce monde sont dans la main de Dieu et reposent dans la paix, où elles jouissent de l'intimité divine, tout en attendant le jour du jugement dernier et l'instauration du règne définitif de Dieu. Donc, on a cette idée qui est présente, mais implicitement à l'époque déjà de l'Ancien Testament, mais relativement tardivement. Dans le Nouveau Testament, là encore, l'annonce du jugement final est un thème qui est fondamental. On va parler de ce jugement lors de l'avènement du Christ, lors de ce qu'on appelle la parousie, la manifestation glorieuse du Christ. Et ça, vous vous souvenez, c'est dès l'Évangile, hein. Jean-Baptiste annonce le jugement, quand il évoque la menace de la colère divine, Et puis Jésus, dans les synoptiques, parle souvent de ce jugement. Ce qui va faire une particularité du Nouveau Testament, c'est que celui qui juge, c'est le Christ. Ça veut dire qu'il y a un caractère christologique du jugement par le Christ. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon sa conduite. C'est en Matthieu 16, le verset 27. Saint Paul, justement, d'ailleurs, va appliquer à la personne de Jésus les attributs de jugement que dans l'Ancien Testament on réservait au Seigneur Dieu. Alors, les caractéristiques de ce jugement, un jugement qui sera impossible à fuir, tous y passeront, c'est un jugement qui sera juste, chacun y rendra compte pour soi-même, chacun s'y présentera avec ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Le critère du jugement, ce sera, et ça c'est l'épître aux Romains au chapitre 2 qui va le détailler, la loi mosaïque pour les Juifs qui ont vécu sous cette loi, la loi inscrite au fond des cœurs pour les païens qui n'auront possédé d'autres lois que le témoignage de leur conscience, et pour ceux qui ont connu l'Évangile, ce sera la loi du Christ, la loi de l'Esprit, loi de liberté intérieure, de charité, de miséricorde, mais liée justement à l'exercice concret de la charité. Paul insistera sur cette expression, la foi opérant par la charité, et Saint Jacques le relèvera, une foi qui n'est pas agissant dans la charité est une foi morte. Il y a une particularité dans l'évangile de Saint Jean, en ce qui concerne le jugement, vous vous souvenez peut-être en Jean 8, on va trouver des formules de ce type, « Qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit au Fils de l'homme, n'est pas jugé, il échappe au jugement. » Dans l'évangile selon saint Jean, on a cette idée, du coup, quasiment, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler un auto-jugement, c'est-à-dire que selon comment on va se déterminer vis-à-vis du Christ, eh bien le jugement s'exerce, soit pour ou contre lui. On en trouve aussi la trace en Matthieu 25, vous savez, la grande parabole du jugement, le roi qui fait venir toutes les nations, qui les sépare en deux comme on sépare les brebis des boucs, et puis il va révéler justement ce que vous avez fait à ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous ne leur avez pas fait, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Donc il y a vraiment une détermination de quelle charité aura été vécue, parce que notre lien à Dieu entre en compte, mais le lien au frère entre aussi en compte, parce que ce qui est fait ou pas fait au frère, c'est ce qui est fait aussi au Christ ou pas au Christ. Donc on a cette description du jugement, mais vous allez me dire, mais là vous nous parlez de ce qui est souvent, le plus souvent présenté comme tenant plutôt du jugement final. Est-ce qu'il y a des choses dans le Nouveau Testament qui viennent nous indiquer cette réalité d'un jugement particulier? Eh bien, on en a quelques traces. Ce ne sont pas des traces énormes, mais on en a quelques traces. Je vous cite quelques éléments. Saint Paul, par exemple, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 8, « Ainsi donc, toujours plein de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la clairvision, nous sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Donc ça signifie que si Paul peut dire ça, « Nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur », c'est qu'il pense donc que dès sa mort, il a la possibilité de voir le Christ et d'entrer en communion avec le Christ. Et donc pas simplement dans l'attente du jugement final. on a un indice là qui pense qu'il y a une rétribution, donc c'est un jugement particulier, qui peut s'exercer. On va le retrouver encore dans une autre épître, aux Philippiens, au chapitre 1. « Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait et de beaucoup bien préférable, mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. » Encore une fois, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Donc ce serait, ça va se faire tout de suite. Ce sont quelques textes qui accréditent la doctrine d'une rétribution immédiate dans l'au-delà, d'où l'on peut sans doute déduire l'idée d'un jugement particulier après la mort de chaque homme. Il faudra les déclarations plus tardives du deuxième concile de Lyon en 1274, qui seront reprises ensuite au concile de Florence et au concile de Trente, pour préciser ce sort de l'homme, et ce sort de l'homme donné immédiatement après sa mort. Mais on en a quelques traces dans l'Ancien Testament, pardon, dans le Nouveau Testament. Autre chose que je peux ajouter, c'est l'épisode du bon larron. Vous vous rappelez ce que lui dit Jésus sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » J'allais dire, quand bien même ce paradis peut désigner encore, comme dans l'Ancien Testament, la demeure des justes, en attendant que le Christ ait ouvert les portes du ciel, ça signifie bien qu'il y a, son sort est déterminé. Son sort, il n'est pas en attente, il est déjà déterminé. Je voulais évoquer maintenant l'état de purgatoire. L'état de purgatoire, est-ce qu'on en trouve des traces dans l'Écriture ? Est-ce qu'on a des éléments dans l'Écriture qui vont nous permettre d'évoquer cette réalité, de pouvoir nous dire, ça repose sur quelque chose. Parce que c'est vrai, le développement doctrinal va se développer essentiellement au Concile de Florence, dans un décret de 1439, au Concile de Trente, dans un décret de 1563. Alors, souvenez-vous d'une chose, c'est pas parce qu'on formule à une époque un élément de la foi que cet élément n'existait pas précédemment. Mais c'est que si on le formule précisément, c'est qu'il y a une nécessité, généralement des querelles ou des hérésies dont il a fallu revenir. Il n'empêche, la question est légitime de se dire, est-ce que dans l'Écriture, on va nous parler de quelque chose qui signifie qu'il y a un état de purgatoire et une action, justement. En fait, on va se rendre compte que cet état de purgatoire, on en prend conscience à travers l'action qui est offerte pour les défunts. On se rend compte qu'il y a quelques traces où l'on parle d'une action qui est faite en faveur des défunts, donc de ceux qui sont morts. Or, si leur sort, si on peut jouer sur leur sort, ça signifie qu'il y a un état intermédiaire. Quand on est déjà dans l'état final, ben vous ne changez plus rien. Pour qu'on puisse changer quelque chose, faire évoluer quelque chose, il faut qu'il y ait un état intermédiaire. Et on en a une trace dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Maccabées. Dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, les versets 43-45, je vous le cite, là, le chef du peuple juif va faire une collecte d'environ 2000 drachmes et il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, pour les soldats qui sont morts, parce qu'il y a un certain nombre de soldats, les soldats qui sont morts, en fait, on a retrouvé dans leurs affaires des idoles. C'est-à-dire qu'en plus de leur attachement au Seigneur, ils avaient quelques superstitions et ils avaient des petites idoles avec eux. Et ça, c'est un péché contre la foi du Dieu d'Israël. Et donc, ils demandent qu'on offre pour eux un sacrifice pour le péché. Et le livre des Maccabées commente, agissant fort bien et noblement, d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc là, on a une trace d'une action qui est faite, une prière qui est demandée pour délivrer des défunts de leurs péchés. Mais si on demande qu'ils soient délivrés de leurs péchés, c'est aussi qu'ils n'ont pas dit un non définitif à Dieu. Donc il y a cette possibilité, cet état transitoire qui est manifesté. Dans le Nouveau Testament, on va aussi en avoir quelques traces, toujours, c'est toujours un peu indirect. Vous avez ce texte en Matthieu 12, les versets 31-32, le fameux passage du blasphème contre l'Esprit Saint. Je vous cite le passage. « Aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. » Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, attention, c'est là que ça devient intéressant, ni dans l'autre. Tiens, il y a donc des choses qui peuvent être remises dans l'autre. Qu'est-ce qui peut être remis dans l'autre? Donc ça veut dire là encore qu'il y a un état transitoire. Un passage encore plus mystérieux dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, c'est le fameux passage du baptême pour les morts. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, c'est-à-dire le Père, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux? Alors on ne sait plus exactement, précisément, ce que pouvait être cette pratique du baptême pour les morts, mais ça manifeste qu'il y a là encore l'idée de la capacité d'intervenir pour les défunts. On pourrait citer encore un passage. C'est dans la deuxième à Timothée, au chapitre 1, à partir du verset 16, Paul va faire une prière pour un certain Onésiphore qu'on suppose défunt. Alors, on pourrait dire, mais peut-être qu'il n'est pas mort. Ça peut se tenir, mais vraisemblablement c'est un défunt. Où on dit au sujet, Paul dit au sujet d'Onésiphore, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Quant au service qu'il m'a rendu à Éphèse, tu les connais mieux que personne. Là encore, si on prie pour lui, en demandant qu'une miséricorde puisse être faite, ça veut dire qu'on pense qu'il y a justement une transformation qui peut être, je dirais, qui peut se produire. On va avoir une petite précision aussi, mais à quoi correspond cet état? Et vous savez que j'ai parlé justement d'état de purgatoire. Pourquoi je n'ai pas utilisé simplement le mot purgatoire, mais état de purgatoire, pour revenir au début, j'allais dire, du développement de la foi catholique, où le terme de purgatoire a d'abord été utilisé en adjectif. Et en adjectif pour parler d'un feu purgatoire, c'est-à-dire d'un feu qui purge. Comme vous avez été intoxiqué et vous suivez une purge, une purgation pour vous débarrasser des toxines. Et on a effectivement quelques textes qui vont évoquer cela. On a par exemple, c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 11. Paul décrit de fondement, en effet, nul ne peut en poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sur ce fondement, on bâtit, là il part de la façon dont on vit, qu'est-ce qu'on construit dans notre vie, on bâtit avec de l'or, c'est des images pour parler de la qualité de nos actes ou pas. On bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille. L'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Alors, qu'est-ce que c'est un peu que cette image qui nous est décrite ici? C'est l'image que, dans le processus du salut, il y a des choses, on peut dire, qu'on emporte au ciel, et il y a des choses qui seront brûlées par le feu, qui ne passeront pas cela. On en parlera, tout justement ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est attachement désordonné, au lieu d'être attachement de charité, au lieu d'être attachement selon l'Esprit Saint. Mais donc on comprend à la fois qu'il y a quelque chose qui doit être purifié, mais que cette purification s'adresse à ceux qui sont sauvés. Alors, cet état de purgatoire désigne une réalité, un état intermédiaire, mais qui s'adresse à ceux qui sont sauvés, à ceux qui ont fait le choix du Christ. Voyez, le choix fondamental n'est pas transformé après la mort, mais c'est l'état dans lequel on a choisi le Christ, mais il reste des choses à purifier parce qu'on n'est pas tout tourné dans la charité. Il y a des choses qui ont été rabougries et qui ont besoin d'être redressées, ouvertes, libérées. Dans la première épître de Saint-Pierre, on va retrouver encore aussi cette image du feu. Que votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire, d'honneur, lors de la révélation de Jésus. Donc, des signes dans l'Écriture qui manifestent cet état de purgatoire pour ceux qui ont fait le choix fondamental de Dieu, et un état de purification où il y a une capacité d'interagir les uns pour les autres. On va retrouver du coup cette notion, on voit apparaître cette notion qu'on appellera la communion des saints. Les vivants peuvent intercéder pour les défunts qui se purifient, qui ont besoin de purification. Voilà ces éléments que je voulais vous donner un petit peu sur qu'est-ce que l'on trouve dans l'Écriture au niveau du jugement particulier, ce jugement qui a lieu après la mort, la séparation du corps et de l'âme, et de cet état de purgatoire. Est-ce qu'on en parle dans l'Écriture? Comment est-ce qu'on en parle? Oui, une purification à destination de ceux qui ont fait ce choix fondamental du Seigneur, mais qui ont besoin encore d'être libérés. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas complètement assommé, que vous êtes encore un peu vivant, il y en a qui bougent un peu. C'est bien. Voilà. Et je vais laisser maintenant la parole au Père de Mélo, qui va nous donner une approche théologique et spirituelle de ces questions.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai fait du catéchisme, j'ai jamais entendu parler du jugement particulier et du purgatoire. Il a fallu que je fréquente quelques officines un peu conservatrices pour entendre parler de cela, comme si c'était finalement quelque chose d'assez périphérique dans le contenu de notre foi. Or, il me semble que ça peut paraître provocateur, mais que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle du jugement. C'est une bonne nouvelle que Dieu soit juge. Parce que quand Dieu veut juger, il pose un acte par lequel il accomplit la promesse que nous soyons délivrés du mal. Nous voulons tous être délivrés du mal. Il me semble. Enfin, ça paraît plausible, disons, comme affirmation. Donc nous voulons tous que Dieu soit notre juge. Et il y a quelque chose d'identique à être délivré du mal et être jugé par Dieu. Parce que le jugement de Dieu, c'est une mise en lumière qui fait apparaître la vérité et qui fait le tri. Qui fait le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme dit la parabole, et qui en quelque sorte désagrège, désolidarise le péché et le mal, tout le mystère du mal, du mystère de l'amour et de la sainteté. En fait, prenez un juge, n'importe quel juge qui rend la justice, voyez. Il y a une scène de crime, et puis on peut dire que c'est un mal, et il est bien qu'il y ait un juge pour faire apparaître la vérité de ce qui s'est passé, que le scénario soit mis en lumière, que le mobile, que tous les indices étant rassemblés, on puisse déterminer quel est le coupable et puis quel est son degré de culpabilité. Et en fait, on va répondre à un mal par un bien qui va consister à mettre en lumière les choses, à faire la vérité. Et il se peut, dans certains cas même, qu'un juge qui a rendu une sentence et qui amène une sanction, qu'il se peut, dans la justice des hommes, ça arrive parfois, qu'il y ait même un acte de miséricorde qui consiste à lever une peine, ça s'appelle une amnistie. Les parents connaissent ça quand ils ont puni leurs enfants, puis qu'ils ont levé la punition. C'est intéressant parce que ça veut dire que, parce qu'il y a eu une peine, il va pouvoir y avoir de la miséricorde, parce qu'il y a la justice exercée, on va pouvoir exercer de la miséricorde. Et donc, cette mise en lumière, lorsque nous paraissons devant Dieu, fait la vérité sur ce qu'est notre vie. Et notre vie est cette terre ensemencée de bons grains et d'ivraies, qui a porté plus ou moins de fruits, et il y a une séparation qui doit être faite à l'heure du jugement entre le bon grain et l'ivraie, et il est bon que cette séparation se fasse. Parce que dans cette séparation, Dieu nous dit quelque chose sur nous-mêmes qui est très important, c'est que la vérité de ce que nous sommes à ses yeux, ce n'est pas le mal, justement. La vérité de ce que nous sommes aux yeux de Dieu, ce n'est pas le mal que nous avons commis, ni même forcément que nous avons subi. Nous-mêmes, nous sommes capables de nous identifier à nos péchés, ou d'identifier notre prochain à son péché, de l'enfermer dedans. Nous sommes capables aussi de nous-mêmes complaisamment d'entretenir avec cette mauvaise odeur qu'est la nôtre une forme de complicité. Nous sommes capables de nous définir bien des fois par le péché que nous avons commis, qui nous marque, qui nous fait honte, que nous détestons, qui nous blesse, ou bien d'autres réalités du mystère du mal qui nous affectent, qui nous ont affectés. Si nous avons été abusés sexuellement, nous pouvons dire que nous pouvons, dès que nous parlons de nous, dès que nous nous regardons, dès que nous regardons notre vie, la regarder au travers de ce prisme. Si nous avons été battus ou que nous avons eu une enfance douloureuse, nous pouvons finalement ne plus voir notre vie qu'au travers de ce mal. Et le jugement particulier, c'est cette instance de rencontre avec le Seigneur, dont la lumière fait apparaître forcément les ombres, je le dis très souvent, si on éteint la lumière, il n'y aura plus d'ombre, mais dès qu'il y a de la lumière, il y a des ombres, et le Seigneur nous révèle à cet instant que nous ne sommes pas identiques aux ombres de notre vie, et que nous ne sommes pas identiques à la vérité à ce mal, que nous ne sommes pas définissables par ce mal qui nous a traversés et auquel parfois nous avons participé dans notre péché, ou auquel parfois, dans lequel, sans avoir participé, en l'ayant subi, nous avons pu nous complaire. Et donc c'est une bonne nouvelle d'être jugé par Dieu, parce qu'ainsi il peut nous faire émerger dans la vérité de ce que nous sommes, nous dévoiler la vérité de ce que nous sommes. La difficulté face à laquelle nous pouvons être confrontés à cet instant, c'est qu'il nous faut consentir à cela. Or, consentir au jugement, cela veut dire que j'accepte que la référence de ma vie, celui à qui est l'étalon de mesure, en quelque sorte, de la vérité de ma vie, c'est Dieu. Qu'est-ce qui dit la beauté de ma vie ? C'est son intensité de vie filiale vis-à-vis de mon Père. C'est l'intensité de la vie de la charité. C'est en fait la vérité de mon être se trouve définie, qualifiée par Dieu. Sur les voitures, il y a des critères de pollution, d'accord ? Et eh bien, il y a des mesures énergétiques pour les maisons. Mais on peut dire que le critère le plus favorable à l'homme, le plus respectueux de la dignité de l'homme, qui dit le mieux ce qu'est l'homme, se trouve dans le cœur de Dieu. Et la vérité la plus belle de ma vie, c'est Dieu qui peut me la donner. Et la difficulté, c'est en fait, dans le jugement, de consentir à cela, que la vérité de mon être, ce ne soit pas moi. Que je ne sois pas au centre de mon jugement. Que je ne sois pas auto-centré dans mon jugement. C'est-à-dire que je ne sois pas la référence de la vérité de ma vie. En fait, la grande difficulté pour l'homme, c'est d'accepter d'être jugé par un autre que lui. C'est de passer au crible et sous la lumière d'un autre. Je préfère souvent m'éclairer à ma propre lumière qu'à la lumière d'un autre que moi. C'est pénible de se dire que, finalement, c'est blessant pour notre amour propre de nous dire que la vérité de notre être nous est donnée par un autre que nous. Que nous avons, en quelque sorte, à nous recevoir d'un autre. Nous passons notre existence à vouloir être de plus en plus libre, autonome, indépendant, et en fait, nous désaliéner de tout. Et voilà que le Seigneur nous révèle que c'est dans ce lien à lui, ce lien filial à notre Père, que se trouve, et cette relation filiale, dans cette dépendance à laquelle nous consentons, que en fait se trouve la vérité de notre vie. Et que c'est en fonction de. Et c'est, nous serons jugés en quelque sorte sur ce consentement, sur l'acceptation d'être liés au Seigneur qui nous révèle la vérité de notre être. Et c'est pour ça que l'homme qui, dans cette rencontre avec le Seigneur, dans le jugement particulier, l'homme qui se damne, c'est l'homme qui, en quelque sorte, se juge son propre juge, refuse d'avoir Dieu pour juge. L'homme qui se sauve, fut-il pécheur, fut-il un grand pécheur, fut-il un terrible pécheur, fut-il la crapule la plus épouvantable, il se sauve s'il consent à être jugé par un autre que lui, par le Seigneur. S'il accepte au moins de recevoir sa lumière de quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette terre, nous avons souvent une faible conscience et du bien que nous faisons et du mal que nous faisons. Mais Dieu, lui, sait le bien que nous faisons et le mal que nous faisons. Et il sait le bien que nous sommes, surtout. Il sait de quelle bénédiction il nous a bénis. Dans la création, Dieu, le premier acte que Dieu pose sur Adam, c'est qu'il le bénit. Il le comble de ses bienfaits, de ses bénédictions. Et puis Saint Paul nous dit que Dieu nous a bénis dans le Christ. Donc, le Père y est allé vraiment en ADSL et en 5G sur la bénédiction, quoi. Il n'a pas lésiné. Il sait cela. Nous en sommes souvent très ignorants ou très peu conscients. Et lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, en quelque sorte, ça nous sautera aux yeux. Ça nous éclatera au visage, cette bénédiction de Dieu. Et en quelque sorte, il nous reviendra de recevoir cette bénédiction, ce bienfait de Dieu, où il se peut que nous fassions un pas en arrière, que nous nous mettions en retrait parce que nous n'en voulons pas, parce que nous préférons nous bénir nous-mêmes, nous attacher, comme Picsou sur son or, nous attacher à notre propre vie telle que nous l'avons construite et conçue et pensée, telle que nous l'estimons valable. Et c'est pour cela que dans cette rencontre et ce face-à-face se joue encore un ultime acte de liberté, dans lequel d'ailleurs le plus grand des pécheurs qui a toujours résisté à Dieu, à ce moment-là, son cœur peut se fendre et peut finalement rendre les armes à Dieu et dire « En fait, Seigneur, je consens à ce que la vérité de mon être me soit donnée par toi. » Et c'est cela aussi notre espérance, quand nous prions pour les plus grands pécheurs, quand nous prions pour la conversion des pécheurs, nous prions pour qu'au moins dans ce face-à-face, il rende des armes, il se laisse bouleverser, qu'il soit stupéfait devant l'immensité de la bénédiction de Dieu en leur faveur, plutôt que de se recroqueviller, se replier sur la profondeur abyssale de leur nombril et des actes dans lesquels ils s'estiment être des justes selon eux et non selon Dieu. Alors là-dessus, c'est vrai que notre foi derrière nous donne à comprendre que notre vie est d'une particulière gravité. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est plus grand que ce que nous croyons. Notre péché est probablement plus grave que ce que nous croyons, parce qu'il est une offense à un grand amour. Ce que je peux offenser le plus sont ceux qui m'aiment le plus. Mais la miséricorde de Dieu est plus grande que ce que nous croyons aussi. Et il se pourrait bien que lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, finalement, bien de nos résistances lâchent, qu'elles cèdent, que ces digues que nous avons dressées entre Dieu et nous se fissurent. En tout cas, c'est pour cela que nous prions. Alors, pourquoi avons-nous besoin du purgatoire? C'est que précisément, nul ne peut voir Dieu sans mourir, dit l'Écriture. La lumière de Dieu est trop intense et trop belle à nos cœurs endormis. Le parfum du ciel est enivrant et nous avons perdu l'odorat. Les vins capiteux du festin céleste sont trop délicieux, mais nous avons perdu le goût. Il y a quelque chose d'inadapté dans notre humanité en sous-régime telle que nous la vivons. Nous sommes en quelque sorte, nous vivons en quelque sorte, nous roulons sur l'autoroute en première vitesse, ou un pied sur le frein. Et nous passons notre temps à gravir la montagne en marche arrière, sans voir les cimes. Et il y a quelque chose d'inadapté pour l'homme à se tenir en présence de Dieu. Les plombs sauteraient si nous étions en sa présence. Et comme quand on sort d'une forêt touffue et qu'on arrive dans une clairière en plein jour, nos yeux se ferment parce que la lumière du soleil est trop éblouissante, l'homme a besoin aussi d'accommoder, de s'ajuster, d'être adapté au Seigneur qui lui ouvre les bras. Mais comme nous avançons à tâtons et les yeux fermés, il nous faut le temps. Et c'est cela le purgatoire, c'est ce temps d'adaptation de l'homme à un amour plus grand que lui. En quelque sorte, pour reprendre une expression du psaume que les médiévaux aimaient beaucoup, l'abîme qui appelle l'abîme. Notre cœur est trop replié pour s'ouvrir à l'abîme de Dieu. Or, notre cœur est appelé à être un abîme qui va aussi être comblé par l'abîme de l'amour de Dieu. Et ce cœur trop à l'étroit a besoin de s'assouplir pour se laisser aimer. Et le purgatoire, c'est ce temps où, en quelque sorte, les croûtes qui sont sur notre peau doivent tomber. Et parfois, c'est douloureux, et c'est pour ça qu'on parle toujours de l'Église souffrante quand on parle des âmes du purgatoire, parce que il y a là des renoncements à ce, à ces liens que nous avons noués avec le mal. Il y a une sorte de mise à distance, de consentement à dire, à accepter que en fait, ce mal, en fait, non, ne me définit pas. Il y a besoin, en quelque sorte, que notre cœur descende dans un consentement dans lequel il refuse de se définir par ce mal. Il y a une abdication à vivre sur ce péché auquel je tiens et sur ce mal dans lequel je me suis défini, et ça n'est pas si facile de se voir autrement que l'on s'est toujours regardé, différemment, dans le regard de Dieu. C'est cela le purgatoire. C'est ce temps de libération. J'aime beaucoup les romans de Lewis. Je ne sais pas si vous avez lu les Chroniques de Narnia, qui sont une fresque théologique splendide. Il y a ce moment où Eustache, dans l'Odyssée du passeur d'Aurore, s'est laissé envoûter par de l'or ensorcelé. Et ce petit garçon pénible, totalement égocentrique, totalement jouisseur, est transformé par cet or ensorcelé, transformé en dragon. Et puis dans le récit, l'aventure se passe, et finalement sa puissance de dragon, qui fait peur à tout le monde et qui fait qu'il est rejeté par les hommes, il va se servir de cette puissance pour faire un bien, pour sauver le passeur d'aurore, un bateau sur une mer ensorcelée. Et finalement, transpercé de flèches, ce dragon, Eustache, s'échoue sur la plage. Et le roi Aslan, qui est la figure de Dieu, vient le libérer de cette carapace du dragon. Et il redevient le petit garçon qu'il était, mais purifié de tout mal. Il y a là une image du purgatoire très belle, ce souffle de l'Aslan qui souffle sur lui, qui rugit sur lui, et qui le libère de cette carapace. Et la remarque d'Eustache dans le texte, quand il raconte cette expérience, il dit « C'était à la fois douloureux et doux, comme lorsqu'on retire une écharde de la chair. » Quand on retire une écharde, c'est bien douloureux, il faut aller la chercher dans la chair, mais c'est une libération. Et il y a quelque chose de cela dans le purgatoire, à la fois une douleur qui ouvre à une douceur. En fait, le but du purgatoire, c'est qu'à la fin, il ne demeure plus que la charité. Que tout ce qui a été vécu sur cette terre, d'ambigu, de mélangé, soit décanté, et que dans le tamis, il ne reste que la charité. De la vie conjugale, il ne restera pas, et de nos vies familiales, il ne restera pas un arbre généalogique, il restera tout ce que cette vie conjugale ou cette vie familiale a donné de charité, nous a embellis en charité. Tout ce qui nous a embellis en charité, si à la limite vous avez un poisson rouge et que ça stimule votre charité, c'est parfait. L'essentiel, c'est que la charité croisse. Et même votre patron que vous avez envie de défenestrer, s'il stimule votre charité, il en restera quelque chose dans l'éternité. Il ne restera plus que cela. Et si votre conjoint, pareil, vous aimeriez plutôt l'empoisonner que de continuer à vivre 3 ans de plus avec lui, eh bien, si ça stimulait votre charité, alors voilà ce qui restera, c'est la charité, la seule chose qui demeurera dans l'éternité. Et il faut que le tri se fasse. Alors, dernière chose, il me semble intéressant de comprendre, le Père Wurtz a parlé de la communion des saints, c'est que nous avons déjà une expérience du jugement particulier et du purgatoire dès aujourd'hui. Nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà libres de recevoir notre vie du Seigneur ou de nous replier sur notre péché. Nous sommes déjà, ici-bas, en train de préparer cet instant et cette heure. Elle nous est déjà remise et offerte. Et chaque fois que je vais me confesser, en fait, je me mets en présence du juge de toute chair, qui jugera les vivants et les morts à la fin des temps, mais en attendant, je proclame que la vérité de mon être, ça n'est pas mon péché. Et que je veux que le Seigneur lui-même vive plus pleinement en moi, dès maintenant et pour toujours. Lorsque nous prions le « Je vous salue Marie » pour maintenant et l'heure de notre mort, nous nous attachons aux deux seuls moments qui importent dans notre vie. Hier ne nous appartient plus, demain ne nous appartient pas encore. Par contre, maintenant, je peux recevoir la lumière de Dieu sur ma vie et sa grâce et sa miséricorde. Et l'heure de ma mort, en toute logique, sera ce qu'ont été tous ces maintenant, au sens où l'arbre tombe du côté où il est penché. Et qu'additionnant des maintenant à d'autres maintenant, si maintenant j'accueille la lumière de Dieu, eh bien, paraissant devant lui face à face, je pourrais dire que j'ai déjà une certaine connaissance de cette lumière. On ne reconnaît que ce que l'on connaît déjà. Je reconnaîtrai celui que je connais déjà et de qui je suis connu. Et puis nous avons une expérience assez tangible de ce lien avec l'Église souffrante du purgatoire aussi, au travers des indulgences, cette manière et de la prière pour les défunts, cette manière par laquelle la charité du corps du Christ circule dans tout le corps et bénéficie à tous, et bénéficie à des frères, à nos frères qui nous précèdent au-delà de dans la mort et qui sont en train de cheminer, de se purifier, et à qui nous offrons le cadeau d'une charité plus forte, plus dynamisante, un carburant de charité en quelque sorte, qui les libère, les délivre de tout ce qui doit tomber au sol et de ces scories qui sont appelées à être consumées dans l'amour de Dieu. En fait, le jugement individuel, c'est à la fois un kairos, un moment bien précis après notre mort, mais c'est aussi une œuvre à laquelle nous travaillons et nous contribuons maintenant. Et la communion des saints est une réalité dans laquelle nous sommes déjà en prise directe avec l'au-delà de la mort. Lorsque nous communions au Christ Jésus, lorsque nous le recevons, lorsque nous vivons de lui, lorsque nous prions, nous le touchons par le lien de la foi, nous sommes dans ce contact et ce lien réel avec lui. Nous n'attendons pas d'être morts pour être en lien vivant avec celui qui est vivant pour toujours. Et en commençant à vivre de lui sur cette terre, nous commençons notre vie dans l'éternité et dans la gloire. C'est pour cela que ces réalités qu'on dit surnaturelles et que les fins que l'on dit dernières sont en fait extrêmement contemporaines et présentes. Et que loin d'être dernières, elles sont premières, elles s'offrent à nous dès maintenant comme l'actualité de notre vie chrétienne. Donc, finalement, si nous devions résumer, je prendrais cette formule de Saint Jean de la Croix, qui dit que nous serons jugés sur l'amour, non pas l'amour sentimental, mais la charité de Dieu. Et cette charité, elle nous est donnée à vivre ici-bas sur cette terre, mais à ciel ouvert. Et donc, de même que Saint Étienne voyait le ciel ouvert et contemplait le Seigneur, le Fils de l'homme, alors qu'il n'était pas encore mort, nous aussi, il nous est donné déjà de vivre de cette réalité-là.